Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français chez Valeur Édition, El Ordre Mondial en Mutation de Ray Dalio est un essai de macro-histoire économique et géopolitique. Son sous-titre, El Ascension et la Chute des Nations, résume son ambition principale, expliquer pourquoi certaines puissances dominent une époque, puis déclinent au profit de rivales mieux positionnés. Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, mobilise son expérience comme investisseur mondial pour relier marchés, dettes, monnaies, conflits sociaux et rivalités internationales. Le livre étudie surtout les grands empires commerciaux et financiers des cinq derniers siècles, notamment les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les États-Unis, afin de dégager des régularités historiques. Son objectif ne consiste pas seulement à raconter le passé, mais à fournir un cadre pour interpréter la période actuelle. Marquée par un endettement élevé, des tensions internes, la montée de la Chine et une remise en question de l'ordre mondial postérieur à 1945. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le grand cycle comme grille de lecture de la puissance nationale, le concept central du livre est le grand cycle. Une séquence récurrente qui décrit comment une nation devient dominante, consolide sa puissance, puis entre en déclin. Dalio ne présente pas ce cycle comme une loi mécanique, mais comme une structure causale fondée sur des facteurs qui se renforcent mutuellement. Une puissance ascendante combine généralement éducation, innovation, compétitivité, commerce, productivité, marché financier profond et monnaie largement acceptée. Ces avantages attirent les capitaux, financent expansion économique et influence militaire, puis renforcent encore la position internationale du pays. Le problème apparaît lorsque la prospérité accumulée encourage excès de confiance, spéculation, endettement, perte de discipline productive et polarisation sociale. Le cycle devient alors moins vertueux, les coûts augmentent. Les rivalités internes deviennent plus dures et les concurrents étrangers gagnent en efficacité. En comparant les empires néerlandais, britanniques et américains, Dalio cherche à montrer que la domination mondiale repose rarement sur un seul facteur. Elle dépend d'une architecture complète de pouvoirs économiques, financiers, culturels et militaires, de ciments, dettes, monnaie et statut de devise de réserve comme moteur du basculement. Une grande partie de l'analyse porte sur la relation entre dettes, création monétaire et hiérarchie internationale. Selon Dalio, les grandes puissances bénéficient souvent d'une monnaie de réserve, ce qui leur permet de financer des déficits à des conditions favorables. Cette position procure un avantage considérable, le monde accepte leur monnaie, achète leurs actifs et soutient leur capacité de dépense. Mais cet avantage peut aussi devenir une faiblesse. Quand un État emprunte au-delà de sa capacité réelle de production, il doit choisir entre austérité, défaut, restructuration ou création monétaire. Dans les périodes de taux très bas et de dettes massives, la tentation de produire davantage de monnaie augmente, ce qui peut réduire la confiance dans la devise. Dalio relie ce mécanisme à plusieurs transitions historiques, depuis le florin néerlandais jusqu'à la livre sterling puis au dollar. Le livre insiste donc sur un point pratique, la stabilité monétaire ne dépend pas seulement des banques centrales, mais aussi de la solidité productive, budgétaire et politique de la puissance qui émet la monnaie. Troisièmement, les conflits internes comme signe avance de fragilité systémique. Dalio accorde une place importante aux tensions intérieures, car une puissance ne décline pas uniquement sous pression extérieure, les inégalités de richesse. Les écarts de valeur, la perte de confiance dans les institutions et la polarisation politique peuvent affaiblir la capacité d'une société à prendre des décisions collectives. Dans son modèle, les phases tardives du cycle sont souvent caractérisées par une lutte plus intense pour la répartition des revenus, du pouvoir et du statut. Quand la croissance ralentit, ou que la dette limite les marges de manœuvre, les compromis deviennent plus difficiles. Les groupes sociaux interprètent alors les mêmes événements de façon incompatible, ce qui réduit la légitimité des règles communes. Le risque central ne réside pas seulement dans le mécontentement, mais dans le blocage institutionnel. Un pays divisé réagit moins efficacement aux crises financières, sanitaires, militaires ou technologiques. Cette analyse explique pourquoi Dalio compare fréquemment la période actuelle aux années 1930, non pour prédire un scénario identique, mais pour souligner la combinaison dangereuse entre pression économique, radicalisation politique et rivalité internationale. Quatrièmement, la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans une transition d'ordre mondial, le livre applique son cadre historique à la relation entre les États-Unis. Puissance dominante du système postérieur à 1945 et la Chine, puissance ascendante. Dalio ne réduit pas cette rivalité à une opposition idéologique. Il la présente comme une compétition multidimensionnelle portant sur commerce, technologie, finance, influence géopolitique et capacité militaire. Ces domaines sont liés, une avance technologique soutient la productivité soutient les ressources fiscales financent défense et diplomatie. Et la puissance financière influence les alliances. Dans cette perspective, les tensions commerciales ou les restrictions technologiques ne sont pas des épisodes isolés, mais des manifestations d'une redistribution plus large de pouvoir. Dalio souligne aussi que les transitions entre puissance dominante et puissance montante sont historiquement délicates, car chaque camp tend à percevoir les mesures d'autres comme des menaces stratégiques. Le livre invite donc à regarder la Chine non seulement comme un concurrent économique, mais comme un acteur capable de modifier les règles commerciales, monétaires et diplomatiques qui ont structuré l'ordre international récent. En dernier lieu, des principes pour se positionner sans confondre cycle et destin, mais même si le livre repose sur une lecture cyclique. Dalio cherche aussi à en tirer des principes utiles pour investisseurs, responsables publics et lecteurs qui veulent comprendre leur environnement. Le message pratique principal est que les grands changements ne surgissent pas toujours sans signe précurseur. Dette excessive, perte de compétitivité, fragmentation sociale. Création monétaire massive et montée de rivaux crédibles forment des indicateurs à surveiller ensemble plutôt que séparément. Pour les investisseurs, cette approche justifie une attention aux monnaies, aux actifs réels. La diversification géographique et aux périodes où les obligations ou la liquidité classique protègent moins bien. Pour les décideurs, elle met en avant la nécessité de réduire les fractures sociales, investir dans productivité et maintenir confiance budgétaire et institutionnelle. La limite du raisonnement est aussi importante, les cycles peuvent éclairer les risques, mais ils ne déterminent pas précisément le calendrier ni le résultat. Dalio propose une carte, non une prophétie. La valeur du livre vient de cette tension entre modèles historiques larges et prudence face aux événements imprévus. En conclusion, l'ordre mondial en mutation convient particulièrement aux lecteurs qui veulent relier économie, histoire financière et géopolitique sans rester enfermés dans une seule discipline. Les investisseurs y trouveront une méthode pour penser les risques macroéconomiques au-delà des cycles boursiers ordinaires. Les étudiants en relations internationales, économie politique ou histoire contemporaine y trouveront une synthèse utile sur la manière dont monnaie, dette, puissance militaire et cohésion sociale interagissent. Les décideurs publics peuvent aussi y puiser une perspective sur les dangers de la polarisation, du surendettement et du sous-investissement productif. Son intérêt intellectuel tient à sa capacité à comparer plusieurs siècles de puissance mondiale avec un vocabulaire accessible, tout en conservant une ambition systémique. Par rapport à de nombreux livres de géopolitique, il se distingue par son attention aux mécanismes monétaires et aux marchés financiers. Par rapport à de nombreux ouvrages financiers, il se distingue par son ancrage historique et institutionnel. Ses limites résident dans le risque de simplification propre aux grands modèles cycliques, mais cette faiblesse est aussi ce qui rend le cadre lisible. Le livre se démarque donc comme un outil de diagnostic général pour comprendre pourquoi l'ordre mondial actuel semble instable et quelles forces pourraient façonner la prochaine. Phase. Si vous souhaitez soutenir Dalio, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.